d'ensemble de l'actualité.
On manque de personnel. On manque, entre autres, d'infirmières aux soins intensifs. Là, des infirmières d'expérience. C'est pas qu'il nous manque de lits. On a assez de lits, mais il manque d'infirmières. Je peux vous dire, là, on est en train de retourner chaque pierre. Moi, c'est rendu que ça fait partie de mes nuits de sommeil ou de manque de sommeil. Là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ramener plus d'infirmières dans le réseau public? Est-ce qu'il faut payer plus? Comment on peut faire là pour les attirer?
Trainville PM.
Alors, François Legault, là, qui disait qu'il n'endort plus, là, il y a deux jours de ça, là, tellement on manque d'infirmières, notamment aux soins intensifs. Et puis là, moi, ça fait une couple de fois que je vous en parle, puis là, je me dis, on peut pas juste accepter le problème, là, puis baisser les bras, il faut se mettre en mode solution. Bon. Et puis, moi, là, ce que j'entends, là, c'est que du temps supplémentaire obligatoire, il y en a beaucoup plus dans les hôpitaux historiquement liés à la communauté francophone, là. Fait que pour les fins de la discussion, je vais les appeler les hôpitaux francophones. Il y en a beaucoup plus dans les hôpitaux francophones qu'il y en a dans les hôpitaux anglophones. Et moi, ce qu'on me dit, c'est que c'est beaucoup lié au fait que du côté des anglophones, ils font des quarts de travail de 12 heures. Les infirmières rentrent pour 12 heures au lieu de 8 heures, comme c'est le cas du côté des francophones. Là, on va aller rejoindre le docteur Fabrice Brunet. Il est PDG du CUSUM, du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, un de nos très grands hôpitaux au Québec. Bonjour, docteur Brunet.
Bonjour, M. Drainville.
Parce que vous, là, les quarts de travail de 12 heures, vous en avez implanté quand vous étiez à l'hôpital Sainte-Justine, exact?
Exact, et également au CHUM.
Et alors, comment ça se passe? Puis effectivement, est-ce que ça diminue les fameux TSO, temps supplémentaire obligatoire pour les infirmières?
C'est-à-dire qu'il y a en fait une stratégie multiple. Donc, les 12 heures font partie des stratégies, donc une offre qu'on peut faire aux infirmières. N'oublions pas que chaque infirmière est une personne, et non pas uniquement une statistique ou un numéro, qui va avoir besoin d'adapter à la fois sa vie professionnelle, exercer sa profession, et en même temps avoir un équilibre avec sa vie personnelle.
Oui.
Donc certaines ont envie d'avoir du 12 heures, et c'est une offre que nous avons mis en place, et qu'elles peuvent accepter ou ne pas accepter. Mais aussi, d'ailleurs, dans le temps, elles peuvent à un moment vouloir travailler en 12 heures, puis ensuite revenir en 8 heures. Et donc, ça fait partie de l'offre que nous avons mise en place, aussi bien à Sainte-Justine qu'au CHUM.
OK. Mais ma compréhension, puis encore une fois, là, je ne suis pas dans le réseau. Moi, j'observe, puis je lis, puis je me renseigne. Mais ce que j'avais compris, c'est que dans les hôpitaux anglophones, entre guillemets, la vaste majorité des infirmières travaillent du 12 heures. Et ça contribue à une meilleure qualité de vie, à une meilleure gestion et surtout à beaucoup, beaucoup moins de temps supplémentaire obligatoire. En d'autres mots, c'est pas juste des cas individuels, c'est une espèce de culture d'hôpital, les 12 heures. Est-ce que je comprends bien ou est-ce que j'ai tout faux?
Non, d'abord, vous comprenez bien, vous n'avez pas tout faux, mais comme toujours, la situation varie dans le temps et varie selon les organisations. Et quand vous parlez, par exemple, du TSO, lorsque je suis arrivé à Sainte-Justine, ça fait maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, on avait du TSO, puis on a décidé de façon corporative, globale, au niveau de toutes les directions, que le TSO ne devait plus faire partie de la boîte à outils de nos gestionnaires. Ça a pris un certain temps, parce qu'on ne peut pas interrompre le TSO du jour au lendemain, surtout quand il y a une
TSO,
situation.
TSO, temps supplémentaire obligatoire, là, pour pas perdre personne. Là. Hein? Oui.
Mais vous avez parfaitement raison, c'est oui. Temps supplémentaire obligatoire.
Oui.
Et donc, on l'a réalisé, ça a pris à peu près 2 ans pour le supprimer, et après ça a été totalement supprimé. De la même façon, au niveau du CHUM, on a pris cette décision de ne plus en faire, et ça a pris à peu près 1 an et demi, 2 ans aussi. Et depuis, nous n'avons plus de TSO.
Alors, attendez un peu, là. Dans le plus grand hôpital francophone du Québec, le CHUM, il n'y a plus de temps supplémentaire obligatoire?
Absolument.
Chez les infirmières?
Chez les infirmières et dans les autres professionnels, parce que vous savez qu'on a besoin, bien sûr, des infirmières auxiliaires, des préposés, mais également de tous les professionnels, inhalo, physio, etc.
Oui. Je parle des infirmières. Donc, vous avez raison, il y a d'autres corps professionnels également qui en subissent du temps supplémentaire. Là.
Voilà. Donc, bon. Donc, il faut de base qu'il y ait une volonté d'abandonner ce TSO. Tout à l'heure, je discutais avec un de mes collègues du CIS Montérégie, qui va avoir exactement la même attitude et qui est en train de réfléchir avec nous la façon dont on l'a fait.
Lequel, bien, Montérégie S, centre? C'est Pierre Boucher ou Charles Lemoyne?
C'est Philippe Gribault qui est le PDG.
Okay.
Et on discutait de ça tout à l'heure. Il vient d'arriver là et puis il m'a dit « Est-ce que tu as encore du TSO ?» Je dis « Non, on n'en a plus depuis plusieurs années. » Mais ça fait partie d'une stratégie complète. Ce n'est pas simplement le 12 heures. Le 12 heures fait partie. Mais il y a également le temps supplémentaire qui est aussi à voir. Il y a le temps complet, il y a le temps partiel. Et puis il y a
les quarts de soir, les quarts de nuit, les quarts de fin de semaine également. Il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes qui font ces quarts plus exigeants pour la famille.
Tout à fait. Et puis c'est pour ça qu'il faut aussi regarder dans l'évolution de la vie de la personne. Il peut y avoir des moments où l'infirmière veut par exemple être en temps complet. Puis après, il y a d'autres exigences au niveau personnel qui font qu'elle va préférer aller vers du temps partiel, avec ou non temps supplémentaire. Donc on a comme un menu à la carte et qui s'adapte de façon dynamique tout au long du temps et tout au long de sa vie professionnelle. Mais peut-être également un autre élément, parce que tout à l'heure, vous disiez, il faut s'occuper des infirmières, se faire en sorte que leur vie personnelle, leur vie professionnelle soit harmonieuse, ce qui est tout à fait vrai. Ça vaut d'ailleurs pour l'ensemble des professionnels qui travaillent dans notre secteur. Mais il faut aussi redonner du sens. Actuellement, nous avons beaucoup d'éléments qui sont des éléments sur le plan structurel. Comment améliorer, comment organiser, etc. Mais il faut rappeler que chacun de nos professionnels, a priori et en premier les infirmières, ont une vision de soins pour des patients et qu'elles ont à cœur de pouvoir réaliser ces soins dans les meilleures conditions. Il faut donc que ça fasse partie aussi de la vision de l'établissement qui dise derrière, s'il y a d'autres tâches, comment est-ce qu'on va pouvoir dégager du temps pour que les infirmières expriment ou les médecins expriment. C'est pour ça que je vous dis, il y a bien sûr le 12 heures qui est une solution extrêmement utile et nous l'avons dans plusieurs de nos unités, mais ça fait partie de toute une stratégie complète de gestion des ressources humaines.
Juste avant d'aller au représentant syndical de la FIC, là, si on veut mettre en place des quarts de travail de 12 heures, est-ce qu'ils doivent être négociés dans la convention collective locale? Est-ce qu'ils doivent être négociés avec le syndicat, oui ou non?
Alors, de toute façon, le travail que nous avons avec les syndicats est un travail de collaboration étroite depuis de nombreuses années et dans les deux établissements que je vous citais tout à l'heure depuis mon arrivée. Parce que je crois à la valeur ajoutée des syndicats dans une vision de construction collaborative et que très souvent, ils nous donnent des solutions, comme d'ailleurs le terrain nous donne des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé.
Mais docteur Brunet, il faut le négocier quand même. Là, je comprends votre esprit de collaboration.
Bien sûr qu'on négocie tout.
Ça doit être dans la convention collective de l'hôpital ou enfin du CIS ou du CIUS, exact?
Bien entendu, ça se négocie avec localement. Et puis, c'est sûr que le local doit aussi être axé et orienté avec les consignes centrales.
Très bien. Docteur Fabrice Brunet, PDG du CHUM. C'est le fun de vous parler. J'aimerais ça le faire plus souvent.
Alors, c'est avec grand plaisir.
Oui, parce qu'il faut se mettre en mode solution. Merci beaucoup, Dr Brunet. Alors, Dr Brunet qui nous parlait de Philippe Gribault-Val. Alors, il est le PDG du CIS de la Montérégie-Ouest. Donc, c'est l'hôpital Anna-Laberge, notamment, et l'hôpital de Valleyfield. Là, je vais aller parler à Stavros Birbatakos, donc il est président de la FIC, Syndicat des professionnels centre-ouest de l'île de Montréal. Bonjour Stavros.
Bonjour Monsieur Deringville.
Alors, dites-moi Monsieur Stavros, est-ce que la FIC, de façon générale, vous êtes ouvert au quart de travail de 12 heures, pas juste là où ça existe déjà, mais dans des hôpitaux où ça n'existe pas? Et ça pourrait permettre, on vient de l'entendre, ça pourrait constituer un élément de solution, pas la grande solution peut-être, mais un élément de solution pour avoir une meilleure qualité de vie pour les infirmières et moins de temps supplémentaire obligatoire.
Je vais vous dire que n'importe quel aménagement de temps de travail, comme le docteur a mentionné tantôt, c'est vraiment avoir la flexibilité basé sur le changement que le monde vit durant leur carrière, où ils ont besoin de travailler peut-être en plein, peut-être en partiel. Oui, les 12 heures peut-être vont être acceptables pendant une partie de leur vie, mais à un moment donné, on se comprend pour du monde monoparental ou du monde qui a des enfants. C'est pas facile de trouver quelqu'un à aller chercher ton enfant à 8 heures le soir quand tu finisses un quart de 12 heures ou l'amener tôt le matin. So, c'est pas pour tout le monde. Je vais vous dire, dans notre CIUSSS, au centre-ouest de l'île, on a différents temps d'aménagement de temps de travail qui sont disponibles. On est en discussion pour des autres, pour trouver des solutions pour rendre la profession attirante.
OK, mais Stavros, de façon générale, dans les établissements où il y a des quarts de travail de 12 heures, il y a moins de temps supplémentaire obligatoire imposé aux infirmières. Vrai ou faux?
Je ne peux pas vous dire parce que je ne connais pas tous les établissements où il y en a des 12 heures. Je sais que, au CUSUM, comme c'était dit, c'est le cas. Chez nous, il y en a des 12 heures, mais ce ne sont pas présents partout. Ce n'est pas toutes les unités. C'est très rare, plutôt, puis même que c'est disponible à tout le monde. Ce n'est pas la solution, on va dire, parfaite. Ce n'est pas la solution qui va gérer ça. Est-ce que ça peut faire un effet? C'est sûr. Il y a plusieurs façons d'arranger le TSO, mais la première façon, c'est d'assurer de rendre la profession attirante pour faire tirer le monde dans la profession.
Bon, en tout cas, le docteur Brunet, vous l'avez entendu comme moi, il dit qu'il n'y en a plus de temps supplémentaire obligatoire chez les infirmières au CHUM. Mmh. Bon, c'est donc que c'est possible dans un très grand établissement, ben c'est le plus grand dans ce cas-ci, d'éliminer le temps supplémentaire obligatoire. Donc, si c'est possible au CHUM, ça doit être possible ailleurs.
C'est tellement possible, mais ce que je veux clarifier, c'est pas, comme lui l'a mentionné, c'est pas les 12 heures qui font la différence.
Ben, il a dit que c'était, ça contribuait, oui, ben c'est ça. Là.
C'est sûr, ça contribue, mais toutes les formes d'aménagement contribuent dans la façon que le monde va aller travailler où ils ont des options, des postes stables, des aménagements du temps de travail.
Bon. Moi, on dit que c'est compliqué. À toutes les fois qu'on pense avoir un début de solution, on a l'impression qu'à toutes les fois qu'on met une solution sur la table, il y a toujours quelqu'un pour dire « oui, mais attention, mais oui, mais attention ». Non, mais c'est un peu, honnêtement, là, M. Birbatakos, là, ça nous emmerde un peu, là, parce qu'à un moment donné, tu te dis « coudon, là, pouvez-vous, là, tu sais, nous dire oui, ça, là, si on le faisait, les infirmières vivraient mieux ». Les infirmières seraient plus heureuses au travail. Il y aurait le goût de rester. Il y aurait le goût de s'enrôler. Il y aurait le... Tu comprends?
Si c'était ça, M. Drindel, ça aurait été facile. Ça aurait été facile. Ça fait longtemps. Ouais. Les problèmes sont tellement grands, puis c'est le surcharge de travail puis le manque de personnel. Puis il y a plusieurs facteurs.
C'est le chien qui court après sa queue. C'est le chien qui court après sa queue. Moi, je propose des solutions pour qu'elle reste.
Regarde, moi, je suis d'accord que les aménagements de temps de travail vont certainement avoir un effet partout dans la province pour aider à ramener du monde dans le job. Je suis bien d'accord, je veux spécifier, c'est pas nécessairement juste les 12 heures. Quelqu'un qui peut-être va avoir accès à travailler une fin de semaine sur toi, puis c'est faisable, il y en a des places qui le font, hein?
OK, il faut que je vous laisse, Stavros Birbatakos, donc le président de la FIC pour le centre-ouest de l'île de Montréal, donc principal syndicat des infirmières là-bas. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Alors, Luc,
Comme toi dans ta question, c'est à chaque fois qu'on pense avoir une solution, il y a un autre obstacle qui arrive devant nous. Comment peut-on concilier toutes ces choses-là? Un qui dit qu'il n'y a plus de temps supplémentaire obligatoire au CHUM. L'autre qui dit ben là, ça dépend de... Écoute, il doit bien avoir une solution, Bernard.
Puis moi, Luc, tu te rappelles, on a parlé des agences il y a une semaine ou deux. Bon,
faut abolir ça.
Tu sais, bon. Alors là, ouais, mais c'est pas si simple que ça. Parce que j'ai eu des discussions depuis qu'on s'est parlé. Puis là, il y a des hôpitaux, des CIS puis des CIUSSS, là, ils peuvent pas juste couper le recours aux agences du jour au lendemain, ils vont devenir dysfonctionnels. On est devenu, dans certains hôpitaux, complètement dépendant. On ne peut plus fonctionner si on ne fait pas appel aux agences. Alors là, il va falloir se sevrer de ça, puis c'est pas si simple qu'on le pense. Mais à travers toutes les discussions que j'ai eues, il y avait quand même un bon consensus que les quarts de 12 heures, là où il y en a, ça réduit le temps supplémentaire obligatoire. Puis là, j'ai le gars du syndicat qui me dit, mais oui, mais attention, faire attention, il n'y a pas juste ça, tatati, tatata. Fait que là, tu sais.
Oui, c'est comme quand les syndicats ont décidé que les préposés aux bénéficiaires d'un CHSLD ne devaient pas avoir d'augmentation de salaire. Je les écoute des fois, je me demande où est-ce qu'ils vont dans la vie. Ben, qu'est-ce qu'ils veulent exactement?
Ils ont fini par les avoir. Ouais, là, les préposés dans la nouvelle convention, ils vont le faire, leurs 26$ de l'heure. Mais écoute, ça a été compliqué de vouloir augmenter le salaire des préposés parce que les syndicats disaient tu peux pas juste augmenter le salaire des préposés, il faut que tu augmentes les salaires de tout le monde.
Alors, tu imagines qu'est-ce que ça donne, ça, je veux dire. Puis, comme tu dis, on dirait qu'à chaque fois qu'on avance d'un pas, paf, on reçoit une autre taloche. Comment on s'est rendu à ça? Fait sur des années, ça.
Ah oui, puis c'est devenu une culture. Moi, je veux surtout qu'on s'en sorte. Alors, comment on est arrivé, si on pourrait pérorer longtemps, mais je veux qu'on s'en sorte. En tout cas, regarde, on travaille sur des solutions, mon Luc, on se reparle un peu plus tard.
À tantôt.
OK, on s'en va à la pause, au retour, la gestion des cas dans les écoles. Ça, on le sait que c'est compliqué. Et par ailleurs, il y a des personnes qui sont COVID, qui ont des symptômes COVID et qui veulent pas aller se faire dépister ou qui décident qu'ils ne vont pas se faire dépister. Et ça arrive deux fois sur trois. C'est beaucoup, beaucoup après la pause.